VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 13h à Boutembo en RDC, 11h en temps universel. Bonjour à tous. Téhéran a décidé de cesser d'appliquer certains de ses engagements pris dans le cadre de l'accord international sur son programme nucléaire de 2015, a indiqué aujourd'hui le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué. L'annonce iranienne intervient dans un climat de tension exacerbée avec les États-Unis. Le Pentagone a annoncé dépêcher plusieurs bombardiers B-52 dans la région du Golfe. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a fait mardi une visite surprise à Bagdad, affirmant disposer d'informations indiquant une escalade des activités de l'Iran qu'il a accusé de préparer des attaques imminentes contre les forces américaines dans la région. Nous ne laisserons pas l'Iran se doter de l'arme nucléaire, a réagi aujourd'hui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Israël a toujours accusé l'Iran, son ennemi juré, de chercher à fabriquer l'arme nucléaire, ce que Téhéran dément. Politique américaine, les démocrates renforcent la pression sur Donald Trump, le président américain. Ils enclenchent aujourd'hui une rare procédure au Congrès. Idrissa Seydoudia.
Une nouvelle étape devrait être franchie aujourd'hui dans le bras de fer entre les démocrates de la Chambre des représentants et le président républicain Donald Trump, avec l'ouverture prévue d'une rare procédure contre son ministre de la Justice, William Barr. Les parlementaires démocrates, majoritaires à la Chambre basse, vont avoir une réunion en commission pour débattre avant de voter la défiance contre Bill Barr. Il l'accuse d'avoir entravé les prérogatives d'enquête du Congrès en refusant de leur livrer dans les délais impartis la version complète du rapport d'enquête du procureur Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Ils accusent aussi M. Barr de chercher à protéger le président Trump.
Merci Idrissa. Les dirigeants des pays de l'Union européenne se retrouvent demain jeudi à Sibiu, c'est en Roumanie, sans le Royaume-Uni, pour plancher sur leur agenda stratégique des 5 prochaines années et ouvrir le bal des prétendants aux grands postes européens. À une quinzaine de jours des élections européennes, les chefs d'État et de gouvernement auront à cœur d'afficher une image d'unité des États membres et d'éviter surtout de parler du départ britannique qui a accaparé bon nombre de leurs derniers sommet. Il y a une volonté collective de ne pas parler du Brexit, dont la date butoir a été repoussée au 31 octobre, et de reprendre en main l'agenda européen, a expliqué la présidence française de l'Union européenne. La chrétienne Asia Bibi a quitté le Pakistan, ont annoncé aujourd'hui des médias pakistanais, plus de 6 mois après avoir été acquittée d'une condamnation à mort pour blasphème qui avait suscité l'indignation à l'étranger. Les autorités pakistanaises ne se sont pas encore prononcé sur sa destination ou les conditions de son départ. Si celui-ci est confirmé, ses filles ont fui il y a plusieurs mois au Canada, selon plusieurs sources diplomatiques. Usant de la carotte et du bâton, le vice-président américain Mike Pence a annoncé lors d'un discours à Washington la levée des sanctions contre l'ancien chef du renseignement du Venezuela, le général Manuel Figuera, lancé une mise en garde aux 25 magistrats de la Cour suprême du pays contre d'éventuelles punitions et répété que les États-Unis n'écartent aucune option pour le départ du président Nicolas Maduro du pouvoir. Le général Figuera a fait défection la semaine dernière pour rejoindre le camp du président autoproclamé Juan Guaido, reconnu par une 50aine de pays, dont les États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Jean-Roger Billon à ce micro. Les chefs du mouvement de contestation au Soudan ont accusé mercredi le conseil militaire de chercher à retarder le transfert du pouvoir civil au lendemain de réserves exprimées par les généraux à des propositions sur une période de transition. La réponse du conseil militaire va dans le sens d'une prolongation des négociations et non vers une transition rapide, a souligné dans un communiqué l'Alliance pour la liberté et le changement ALC qui représente les manifestants. Les militaires avaient souligner que la charia, la loi islamique, devrait être la source de la législation et reprocher à l'ALC de n'avoir pas mentionné cela dans ses propositions. Les Sud-Africains votent depuis ce matin dans le cadre des élections législatives et régionales où le Congrès national africain, ANC au pouvoir depuis 1994, est donné favori. Tous les sondages donnent l'ANC grand favori avec au moins 50% des suffrages, ce qui lui permettrait de conserver la majorité absolue des sièges au Parlement. Notre correspondante en Afrique du Sud, Patricia Huyen, fait le point.
Le vote se déroule depuis 7 heures ce matin. 26 millions d'électeurs sud-africains sont appelés aux urnes aujourd'hui, mais malgré des queues ici et là à Johannesburg, il ne semble pas y avoir d'affluence massive. C'est pourtant un scrutin important pour l'Afrique du Sud, d'abord parce qu'il se tient un quart de siècle après les premières élections multiraciales de 1994, et puis parce qu'il fait office de test pour l'ANC, le parti au pouvoir. L'image de l'ancien mouvement de la lutte anti-apartheid a été profondément endommagée. Les scandales de corruption, l'incapacité du gouvernement à redresser l'économie ont érodé la confiance de la population et le vote pour l'ANC, élection après élection. Mené par le nouveau président Cyril Ramaphosa, le parti devrait néanmoins conserver sa majorité au Parlement. Il sera néanmoins intéressant de voir quelle majorité obtiendra le parti. À ce sujet, les sondages divergent. Certains le placent à peine plus de 50%, d'autres à plus de 60%. Or, de cette majorité dépendra en grande partie la marge de manœuvre de Cyril Ramaphosa. Patricia Huyen, Johannesburg, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires expriment des craintes d'une augmentation des cas de contamination et des décès dus à la maladie à virus Ebola après 2 jours de ralentissement des activités de riposte dans l'est du pays. Eddie Sango a joint dans le Nord Kivu le coordonnateur général de la riposte contre Ebola, le docteur Aaron Haruna.
Le nombre augmente du fait qu'il y a toujours des événements qui ont des effets négatifs vis-à-vis de l'organisation de la riposte. Comme vous le savez, au mois de février, au moment où on a appelé le centre de traitement Ebola, ça a créé la panique au niveau des équipes de riposte. Ils ont fait pratiquement 7 à 8 jours sans organiser des ripostes au niveau communautaire. C'est-à-dire, lorsque les équipes ne passent pas, n'organisent pas des activités au niveau communautaire pendant une semaine, cela favorise la diffusion de la contamination. La dernière fois, c'était la mort du docteur Richard. On parle du docteur Richard, c'est un épidémiologiste camerounais qui était abattu vers 13h-14h. Et cela a créé le psychose au niveau des équipes et veulent à ce qu'ils soient sécurisés. Et tout ce temps-là, qu'on cherche le moyen pour les sécuriser. Entre-temps, la maladie est en train de se propager au niveau de la communauté parce qu'ils avaient peur d'aller organiser les activités de riposte au niveau communautaire.
Est-ce que l'insécurité est la seule raison du ralentissement des activités de riposte contre Ebola ou il y en a d'autres?
Bon, je pense que la cause principale, c'est l'insécurité. Parce qu'avant l'assassinat du docteur Richard, les équipes étaient au niveau des communautés, les activités, presque à 100%, on a commencé à vacciner le maximum de contacts. Et je pense qu'avec cette allure-là, on pouvait rapidement fléchir la tendance de l'épidémie. Mais comme on commence à tuer les gens, on commence à tirer, à saccager les véhicules, tout cela. Donc c'est le problème de sécurité qui est à la base du ralentissement des activités. Donc les équipes de riposte n'ont pas la facilité de descendre, n'ont pas la garantie, n'ont pas la sécurité pour mener les activités au niveau de la communauté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vacciner, ils ne peuvent pas chercher de nouveaux cas au niveau de la communauté, ils ne peuvent pas superviser l'enterrement lorsqu'il y a un cas qui est décédé au niveau communautaire. Et ils ne peuvent pas désinfecter les ménages, ils ne peuvent pas désinfecter les formations sanitaires d'où vient le nouveau cas positif.
Mais qu'est-ce qui explique ces ressentiments de la population ou de certaines personnes à l'égard de ce qui t'en va dans la riposte? Au moindre problème, il y a des attaques.
Nous sommes dans un coin spécifique où la guerre est là depuis plus de 15, il y a des groupes armés, il y a les maïmaï pour cela. Et à un certain moment, vous dites que les gens de Beni, de Butembo, ils ont le sentiment de refuser tout ce qui vient du niveau central. Ils se considèrent toujours en opposition. Il y a les politiciens qui activent et qui essaient de circuler les messages qui ne sont pas corrects, les messages parfois de la haine vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'équipe de riposte. C'est ce qui complique la riposte au niveau communautaire. Jusqu'à même, il y a infiltration des groupes armés, des rebelles, des équipes parmi la population. Ils commencent à tirer sur les équipes de riposte. C'est ça la cause principale de tout ce qui se passe aujourd'hui à Beni, à Butembo et à Kato.
Docteur Aaron Haruna, coordonnateur général de la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo. On termine avec la Guinée-Bissau. Les fonctionnaires et les enseignants ont entamé hier une grève de 3 jours. Ils réclament le paiement d'arriérés de salaire. Le palais du gouvernement, qui abrite une douzaine de ministères, est resté ouvert. Mais les bureaux étaient vides mardi en l'absence des fonctionnaires. Les écoles sont restées fermées. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Bon après-midi partout en Afrique.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.